Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Fesse, la fabrique de l'ESS, première émission sur l'économie sociale et solidaire dans les Alpes-de-Haute-Provence, en direct sur 99.3 fréquence Mistral. Donc comme d'habitude, je suis en compagnie d'Odile qui nous accompagne tout au long de l'émission et qui nous assure une technique incroyable, parfaite, merveilleuse,
irréprochable.
Merci Odile. Et voilà, pour introduire encore une fois cette émission, qu'est-ce que c'est que l'ESS? De quoi on parle? À quoi on pense quand on entend les mots ESS? Hein, voilà, il y a une nébuleuse de sujets, une nébuleuse de projets, de modes d'action. L'intention de cette émission, c'est la suivante, c'est de donner un visage à un secteur d'activité qui représente quand même quasiment 20% de l'emploi sur le département et qui, sur un sujet qui tente de faire le lien entre des grands-parents, des enfants, sur la santé, sur le sport, sur la culture, sur l'entrepreneuriat, sur plein de sujets. Et donc généralement, il y a tellement de choses à présenter qu'il nous a paru plus simple de lui donner un visage humain à travers des personnes qui travaillent, s'engagent dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Et donc aujourd'hui, pour cette émission, on a la chance de recevoir Charlie Divry, qui travaille donc à la Fabrique Entreprendre sur la plateforme Initiative. Bonjour Charlie.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être là pour cette émission. Donc je te rappelle le principe de cette émission qui dure une heure. On va prendre le temps tranquillement, posément, avec ce joli soleil qui nous fait le grand plaisir de revenir dans ce froid qui pour moi est totalement difficile. On va parler donc de ton métier, on va parler de tes missions, on va parler de la structure pour laquelle tu travailles, savoir ce qu'elle fait au-delà de l'envergure dans laquelle tu représentes, qu'est-ce que tu fais. Et puis à un moment, on parlera aussi un petit peu de toi, que tu nous expliques qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves à travailler dans le secteur de l'ESS. Et puis, on t'a demandé de nous faire trois jolis cadeaux. Tu nous présenteras donc trois musiques que tu as effectivement préparées et elles nous permettront donc de venir un petit peu marquer les différentes étapes de cette émission. Est-ce que tu es prêt, Charlie?
Je suis totalement prêt.
Tu es totalement prêt. Eh bien alors, on y va. On va commencer à parler de ton métier. Bah donc tout simplement pour commencer, quel est ton métier, Charlie? Comment est défini ton métier sur ta fiche de poste?
Oula, donc ma fiche de poste date il y a 4 ans maintenant. Je suis chef de projet Fabrique à Entreprendre. Ça veut dire beaucoup de choses. Chef de projet, c'est des notions qu'on entend quand même assez régulièrement, notamment dans les structures associatives, hein, chargé de mission, chef de projet. En tout cas, j'ai démarré avec cet intitulé-là. Je ne sais pas si je dois développer un peu.
Tu peux.
Donc après sur le volet plutôt fabrique à entreprendre, donc ça c'est un dispositif, c'est une grosse action aujourd'hui qui prend de la place dans le réseau Initiative, mais on en parlera un peu plus tard hein, de ce qu'est l'association Initiative. Mais voilà, en tout cas le rôle de chef de projet, c'est un peu un rôle de chef d'orchestre, c'est de manipuler et d'allier beaucoup de personnes, d'outils, de sujets à la fois, et quand on parle de chef de projet, on parle de projet. Et donc ça fait 4 ans qu'on m'a missionné sur un projet de tiers-lieu ressources dédié à l'entrepreneuriat et à l'emploi. On en reparlera aussi certainement un peu plus tard, mais voilà. Et donc ça fait 4 années qu'on développe ce projet sur Digne-les-Bains, et d'où l'intitulé de chef de projet, puisque l'idée c'est de monter et de mener à bien un projet du début jusqu'à son envol, plutôt que sa fin. Ouais.
Tant mieux. Et tu as des missions principales que tu peux t'arriver à fixer ou tu as vraiment quelque chose de central et puis des petits à côté?
Oui, alors ça évolue énormément, ça a beaucoup évolué durant ces 4 années, bien évidemment, puisqu'on parle de projet, donc il y a forcément une évolution des missions en lien avec l'évolution du projet, tout simplement. Moi, je m'identifie comme un mouton à 5 pattes. Alors, c'est pas très très joli, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il y a quand même, j'ai une multitude de casquettes et de missions qui sont très différentes, qui vont de la stratégie à de l'opérationnel, de l'accueil, à des gestions, de la gestion financière, parfois aussi sur une partie. Donc, voilà, mes missions principales ont beaucoup évolué, mais le démarrage de, si je fais un petit peu un historique aussi de ce qui s'est passé, parce que c'est ça qui est intéressant à transmettre, mais en tout cas au démarrage, mon rôle a surtout été de fédérer un certain nombre de partenaires autour du projet, donc ça, ça a pris beaucoup de temps. Fallait faire en sorte que les partenaires aient confiance en nous, puissent raccrocher aussi le projet dans la durée, donc ça c'était important. Au travers, donc c'est passé au travers de temps d'animation, de coordination, de temps de rencontre aussi avec ces partenaires-là, en individuel, en collectif. Et puis c'est passé par la mise en place d'actions très concrètes, et c'est ce qui a fait en fait le ciment du projet qui prend son envol aujourd'hui. Voilà, on a monté des actions d'événementiel autour de l'entrepreneuriat, autour de l'emploi aussi en général. Donc voilà, c'est tout ça qui a été développé, je dirais, au démarrage. Là, on est plutôt sur, à mi-chemin, on était sur des temps plutôt opérationnels, c'est-à-dire qu'il y a, il y a eu la mise en place de cahiers des charges pour créer ce lieu ressource avant travaux, ou de faire en sorte que ce lieu ressource corresponde et aux besoins du territoire. Donc là, il y a eu beaucoup de temps aussi de récolte de besoins avec des usagers et non pas avec des partenaires. Il y a eu ce temps, voilà, de structuration et de synthèse des besoins pour pouvoir amener à ce lieu ressource avant travaux. Et puis après, là, on est plutôt sur une phase de structuration. Donc les autres missions continuent, hein. Les missions de coordination d'action, de coordination de projet avec les partenaires, ça continue, ça se maintient. Là, on est plutôt sur une phase de structuration, puisqu'on met en place des outils très concrets pour notamment...
Du type, quel est un exemple?
Alors bon, typiquement par rapport au lieu ressources, on a un espace de coworking. Donc on a mis en place avec la collectivité Provence-Alpes Agglomération un outil de location de l'espace pour pouvoir réserver les espaces et pouvoir, je dirais, encaisser de manière un peu triviale les recettes liées à la location des espaces. Donc voilà, ça fait partie de ces outils qu'on a mis un petit peu de temps à développer, mais ça fait partie de ces outils structurants pour faire en sorte que le projet soit là dans la durée et soit pérenne. Tout ça vient... on a mis aussi en place, parce que le projet se développe, on a créé un poste à l'accueil, puisque c'était quelque chose que je ne pouvais plus faire par rapport à, je dirais, à la diversité et au développement de mes missions. Donc on a fait en sorte qu'on ait aujourd'hui un poste à l'accueil. Donc c'est Pierre-Alexandre qui est notre concierge de tiers-lieux. C'est un terme qui se développe dans le monde des tiers-lieux. Voilà, donc ça c'est un peu mes missions. Et puis je bois aussi beaucoup de café. Je parle beaucoup avec les gens. Et l'une de mes principales missions, c'est de faire du lien au quotidien. Je fais du lien entre les personnes, entre les actions, entre les usagers, entre les partenaires. Et c'est ce qui fait qu'on répond de plus en plus aux besoins du territoire. C'est ce qui fait qu'on a cet ancrage fort sur le territoire.
Super, un connecteur. Nous avons un connecteur en face de nous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes dans ton métier ?
Oui, ce que je déteste, et d'autant plus quand on développe un projet... C'est les gens qui sont un peu de mauvaise foi et qui cherchent à ne pas faire avancer le projet. Alors que on est profondément convaincu qu'il y a un intérêt général. Et quand je suis profondément convaincu de ça, les personnes qui freinent ça, j'ai un peu de mal. Alors j'ai appris depuis à détourner ça via des astuces, via de la mise en place d'actions très concrètes, via de l'implication, via le site, mais je me suis dit, c'est pas le moment. Et puis peut-être que les gens vont accrocher à un moment donné. Mais voilà, ce qui m'embête dans mon travail, parce que je travaille qu'avec de l'humain, c'est le côté, c'est l'humain qui freine l'avancement de quelque chose qui a un intérêt pour le territoire, quoi.
La mauvaise foi.
Ouais, la mauvaise foi.
Les gens qui boudent. Ok, et inversement, qu'est-ce qui te plaît le plus ? Toi, dans ta mission, dans ton métier là aujourd'hui, qu'est-ce qui, quand tu te lèves le matin, tu te dis génial, je vais pouvoir m'y confronter.
Alors il y a peut-être deux choses, mais la première, c'est la diversité des missions, parce que je me connais aujourd'hui, je me connais de plus en plus, et je sais que j'ai besoin de cette diversité de missions, de passer de la stratégie à boire du café, à faire du lien, à monter une action, à organiser un copil, à faire un rapport d'activité, etc. Voilà, ça pour moi, ce qui me plaît le plus, c'est ce côté diversité des missions. Et ce que j'adore, je pense, par-dessus tout, c'est-à-dire que j'adore la construction, les Lego. J'étais petit, je pense que ça me reste. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aligner un certain nombre de blocs et de briques. Et d'où d'ailleurs, je dirais, l'identité visuelle de la fabrique, d'ailleurs. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on construit quelque chose, il y a une forme d'alignement, on rajoute des blocs, petit à petit, puis il y a un trou là, puis on ne sait pas ce qu'on va en faire pour le moment, mais... Et puis à un moment donné, c'est comme une évidence, quoi. Il y a ce Lego de telle couleur qui vient et qui débarque, et hop, ça y est, on vient raccrocher, et notre objet est créé. Et donc ce que j'aime le plus, c'est ça, c'est de laisser le temps se faire, et à partir d'une opportunité de rencontre, d'un échange et d'un besoin aussi d'usager qu'on aurait retenu il y a quelques mois, et ben là on vient aligner un peu tout ça, on vient construire un peu tout ça, c'est ça que j'aime le plus, quoi, monter des projets finalement, c'est un peu ça l'idée.
Alors juste pour préciser, elle est où cette fabrique concrètement ?
Alors, donc on en parlera aussi tout à l'heure je pense par rapport au réseau initiative, mais là la fabrique dont je parle, puisque c'est la toute première du département, en tout cas à cette image là, c'est celle de Digne-les-Bains, donc elle est basée au 1 boulevard Victor Hugo, près de l'hôtel de ville, en plein centre-ville, et c'est un choix de la collectivité. Donc c'est dans la fabrique est ancrée dans l'espace Dignapolis, qui est un espace dédié aux entrepreneurs sur le territoire. Et donc dans ce lieu, on retrouve des espaces partagés, donc j'en parlais tout à l'heure de l'espace coworking, des salles de réunion, des bureaux à la location, dans lesquels on a plein de personnes qui passent et qui travaillent. Et on retrouve aussi tout un tas d'animations, une offre de services assez complète pour accompagner ces entrepreneurs, d'où l'idée de lieux ressources, dédiés à l'entrepreneuriat et à l'emploi sur le territoire. Je tiens juste à souligner que vraiment c'est une première pour ce département, et on développe une autre fabrique sur Fort Calquier, mais on est au début de ça, donc on développe le projet, on fait des petits, comme on dit. En tout cas sur celle de Digne-les-Bains, on est en plein centre-ville et c'est vraiment extraordinaire d'être connecté, je dirais, au centre-ville de Digne, pour tout un tas de raisons, et l'activité que ça apporte aussi dans le centre-ville de Digne, quoi.
Et qui sont les usagers qui sont dans cette fabrique ? Ils font quoi ? Ils ont des métiers particuliers ? Est-ce qu'ils sont tous dans l'ESS ? Il y a d'autres choses, peut-être ?
T'as raison. En plus, je dirais que ça donne la couleur aussi du lieu. C'est assez varié, comme on l'a construit. Donc, on a des structures associatives, d'ailleurs... uniquement des structures associatives dans la location des bureaux, par exemple. Donc on a Cap Emploi, qui est une structure de l'insertion des personnes en situation de handicap, pour la faire, je dirais, courte. On a le CIBC, qui est une association aussi qui accompagne à la reconversion professionnelle, au bilan de compétences. On a Ergologique, qui est sur plutôt les services d'aide à la personne, et qui accompagne ce public-là, notamment les chèques emploi-service. J'imagine que ça vous parle, on peut l'utiliser... sous différentes formes, mais voilà, ils accompagnent ce public-là, et notamment ces personnes-là, dans leur formation, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas énormément, donc c'est un organisme de formation. Et puis après, dans l'espace coworking, alors on l'a développé de manière, je dirais, un peu récente, mais on a une douzaine de coworkers aujourd'hui installés, et c'est assez varié, on a des porteurs de projets, donc pour nous, ça joue son rôle aussi de lieu ressource, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont créé leur activité de manière récente, quasiment pour moitié, donc avec des profils assez... c'est différent, mais on a plutôt des profils, je dirais, de consultants, d'entrepreneurs indépendants, voilà, de structures indépendantes qui développent leur activité. On a très peu de télétravail, pas beaucoup de personnes en télétravail, en salariés, je veux dire, de structures, et devenant en télétravail ou à l'espace coworking, on a très très peu. On a beaucoup de personnes indépendantes qui ont des activités différentes. Alors plutôt des activités, je dirais, en lien avec l'économie sociale et solidaire, en tout cas avec un lien, je dirais, alors pour le résumer comme ça, mais en tout cas avec un lien pour le monde de demain, voilà, pour la construction d'un monde différent, d'un monde qui vise à développer des actions autrement sur nos territoires. Donc c'est énorme, c'est des personnes très très riches et sur lesquelles d'ailleurs on s'appuie, qui viennent agir dans nos activités, dans ce qu'on peut proposer.
Et s'ils nous écoutent, on les embrasse. On sait que ce sont des personnes merveilleuses. Voilà. Bon, pour info, je fais partie des coworkers qui sont sur ce lieu. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est très pratique pour pouvoir installer son activité et qui me permet de pouvoir... installer mon activité dans l'ESS sur le territoire et même plus loin, et c'est un outil fonctionnel qui, donc pour l'instant, me sert dans mon activité. Mmh. Merci beaucoup, Charlie, en tout cas, pour ça. Alors, avant de passer à la musique, j'ai quand même une autre question. Est-ce que tu as une journée type ? Est-ce que tu arrives à nous dire, voilà, le matin, j'arrive, je prends un café, je dis bonjour et après qu'est-ce qui se passe.
Ok, ça va, ça démarre là. Ok, tu me. Alors juste pour compléter ce qui a été évoqué avant, c'est le côté écosystème. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que toutes les personnes qui gravitent dans le lieu, ça fait écosystème. C'est vraiment comme une forme de ruche, en tout cas. Les gens, quand ils rentrent, typiquement toi, Pascal, quand tu es rentré dans le lieu, on a pu voir aussi des connexions, on a pu voir ce qui pouvait se faire, et il y a des rencontres qui se font. Et donc, il y a une forme un peu d'écosystème bienveillant et positif qui permet de faire en sorte que les gens réalisent vraiment du coworking et travaillent ensemble, a priori. Donc, en tout cas, c'est l'objectif de celui-là. Pour ma journée type... Mmh. Après mon café, mon premier café, parce que j'en prends plusieurs dans la journée. Après mon premier café, souvent je dis bonjour aux collègues, je dis bonjour à Pierre-Alexandre qui est à l'accueil, puis on fait le point sur les missions. On fait le point sur la veille, si j'étais pas là, parce que ça m'arrive d'être un peu en déplacement aussi. Donc il y a toujours ce côté, alors qu'est-ce qui s'est passé et puis qu'est-ce qui va se passer en termes de réservation dans le lieu. Puis on a toujours un coup d'avance aussi sur les événements, puisque Pierre-Alexandre travaille aussi avec moi sur la gestion et l'organisation de ces événements-là, donc combien il y a de participants, la feuille d'émargement, des choses très concrètes. Et puis souvent, j'enchaîne aussi avec une petite visio avec ma collègue qui est sur Fort-Calquet, qui développe ce nouveau lieu, avec qui on discute sur tout un tas de missions ou d'actions qu'on va mettre en place aussi sur le territoire, parce que je n'agis pas que sur le territoire de Digne. Après, qu'est-ce qu'on peut évoquer il y a forcément un coup de fil. Il y a forcément un coup de fil, un mail sur lequel on répond. J'ai centralisé beaucoup aussi. J'étais une forme de gare centrale à un moment donné. C'est-à-dire que je centralisais beaucoup de contacts et de gens, puisque c'est moi qui a monté le projet. J'étais un peu seul au démarrage. Donc forcément, il y a encore ces personnes-là. Il y a des partenaires qui viennent vers moi pour tout un tas de questions et puis aussi des porteurs de projets qui viennent vers moi. Et puis pour terminer sur une après-midi, il y a forcément une petite réunion. Alors en ce moment, peut-être pour vous parler un peu de mes missions qui a un peu évolué, mais étant donné qu'on a une petite expérience, je dirais, tiers-lieu, que je me suis aussi formé à ça et j'ai une certification en tant que pilote de tiers-lieu, c'est peut-être un gros mot, mais c'est une certification qui est assez en tout cas importante, qui développe tout un tas de compétences. Et actuellement, je suis plusieurs collectifs de tiers-lieux sur le territoire. Donc, je ne dirais pas que je les accompagne, mais je viens animer ou co-animer des réunions de collectifs avec eux avant qu'ils se montent. Et ça fait partie aussi des choses que j'apprécie dans mon métier, de pouvoir accrocher et développer ces projets-là. Donc je fais ma petite après-midi en réunion de suivi avec un collectif de tiers-lieux, par exemple, et puis je termine peut-être avec un petit after-work avec les collègues, en tout cas pour faire du lien dans la structure.
Ça se fait, des
ça
fois.
Ça se fait.
Ça se fait, ok. Et donc, en gros, voilà, quelques activités à l'extérieur aussi. Et donc, quoi, là, quand tu parles de l'accompagnement de ces tiers-lieux, tu les accompagnes à préfigurer leur activité ?
Oui. Alors, ce qui est un peu délicat, en fait, c'est que je les accompagne pas dans le sens où je suis pas un expert tiers-lieu. J'ai mon expérience, donc c'est ça que je leur apporte, en fait. Je leur dis pas ce qu'il faut faire. En tout cas, j'essaye d'avoir cette prise de recul. Je leur dis juste comment ça peut se passer et ce qui s'est passé ailleurs, puisque j'ai une veille aussi importante depuis ces quelques années, finalement, autour des tiers-lieux. Et il y a l'idée de leur apporter un peu des outils, des éléments de cadrage, des choses comme ça. Mais vraiment, je suis pas non plus là en tant que consultant, hein, qui va mener à bien un projet du début jusqu'à la fin ou qui va proposer... tout un tas d'actions. Je suis vraiment plutôt là sur ce, vraiment le côté je prends du recul et j'apporte ce que je peux apporter au collectif tout en le laissant vivre, en fait, parce que là il peut très bien aussi y avoir du jour au lendemain un collectif qui dit non, on arrête tout. Et donc voilà, moi, mon rôle, c'est plutôt en tant que structure de l'économie sociale et solidaire et dans l'intérêt général du territoire, j'accompagne ces publics là parce qu'on a un rôle à jouer aussi là-dessus sur le territoire.
Super, écoute, belle action en tout cas. Alors, cette première musique, qu'est-ce que c'est, Charlie ? Qu'est-ce que tu nous as ramené ?
Oui, alors, c'est une première musique, je dirais, un peu... donc, c'est les Pink Floyd, j'imagine que vous connaissez. Et pour moi, c'est une musique que je retrouve, que j'ai toujours retrouvée, en tout cas, dans la playlist de mes repas de famille, parce que mon père adore les Pink Floyd, notamment, et c'est toujours le fond musical de nos repas de famille depuis des années. Enfin, j'ai toujours connu ça, en fait. Et c'est un peu une forme de nostalgie parce que ma famille est loin de ce territoire et je les vois rarement, mais à chaque fois il y a forcément une musique des Pink Floyd, en tout cas une musique voilà de ce groupe là quoi, et ça me rappelle donc ces moments un peu, c'est un peu une Madeleine de Proust hein, finalement en ce qui me concerne Pink Floyd. Pourquoi Monet peut-être, je sais pas, en tout cas j'ai fait le choix de Monet parce que c'est celle qui m'est venue je dirais en premier lieu en préparant cette émission, et aussi parce que très rapidement en fait dans ce genre de repas de famille il y a rien de, il y a des débats et un peu moins maintenant parce que je les vois que quelques fois dans l'année, donc j'essaye de pas trop emboucaner le repas de famille, mais c'était le cas en tout cas quand j'étais étudiant et que je démarrais mon activité avec une envie de parler d'écologie, de société et de donc monnaie, parce que la monnaie, l'argent est un peu partout dans notre société, et à l'époque cette société un peu capitaliste, pour moi c'est quelque chose qui me donc j'ai un peu grandi maintenant, mais en tout cas ça faisait partie de nos débats en famille quoi, et voilà, c'est pour ça que ça me semblait classique en tout cas pour démarrer un peu cet entretien ensemble.
Eh ben c'est génial, je vous laisse fermer les yeux, écouter Pink Floyd et imaginer Charlie au milieu de sa famille en train de parler de l'écologie avec de l'entrain et de l'indignation. les Pink Floyd. Merveilleux. Merci beaucoup, Charlie, pour ce choix. Donc, deuxième partie de l'émission. Est-ce que tu peux nous présenter donc Initiative, donc la plateforme, je crois qu'on dit.
Qu'est-ce que c'est ? Initiative, donc c'est le réseau Initiative. On a refondu toute la communication au niveau national, puisque c'est un réseau national en fait d'associations locales et indépendantes. Mais on est quand même fédéré en associations à la fois nationales et au niveau régional aussi. Voilà, on a un réseau régional de coordination des assos initiatives. Donc réseau Initiative, c'est ça fait très longtemps que le réseau et que l'association existent. Enfin, 40 ans quasiment sur le territoire. Alors, elle a beaucoup évolué. Je ne vais pas refaire l'ensemble de l'historique, mais aujourd'hui, on couvre le réseau Initiative Alpes-Provence, couvre l'ensemble des Alpes d'Haute-Provence, donc le 04, et le sud 05 également. Donc, on a un vaste territoire. On a trois antennes. Donc, une antenne à Manosque, une antenne à Gap, une antenne à Digne-les-Bains, donc dans lequel, donc au sein de Dignapolis et de la Fabrique Entreprendre, hein, l'antenne de Digne. On a ces trois antennes, on a 25 salariés aujourd'hui, même peut-être un peu plus à l'heure où je vous parle. Ça a beaucoup grandi, hein, cette structure. Et puis il y a 300 bénévoles qui viennent graviter autour de l'association, donc bénévoles experts comptables, chefs d'entreprise, banquiers, qui sont là pour alimenter, je dirais, l'activité de la structure. Le fondement d'Initiative, c'est de pouvoir offrir à tous un financement qui permet, en tout cas à tout type d'entrepreneur, de pouvoir se lancer et de créer son activité. Donc c'est ouvert aujourd'hui vraiment à tout type d'entrepreneur, de l'agriculteur au commerçant du coin, il n'y a pas de souci, à la création, mais aussi dans leur développement d'activité. Donc le cœur de métier d'Initiative, à la base, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si je vais parler des différents dispositifs qui sont portés par Initiative aujourd'hui, mais on est sur du financement de prêt à taux zéro en complément de prêt bancaire. Et alors ça peut paraître, je dirais, anecdotique, mais ça ne l'est pas quand on démarre une activité. C'est-à-dire que le financement, c'est un peu le nerf de la guerre, comme on dit, et surtout dans des activités dans lesquelles peut-être certains partenaires financiers comme les banquiers, par exemple, mais qui sont aujourd'hui vraiment avec nous, hein, pour soutenir ces entrepreneurs, mais qui permettent de financer des choses que certains partenaires financiers ne veulent pas financer. Voilà, comme de la trésorerie, comme des choses qui, si jamais l'activité devait à cesser, ne pourraient pas être récupérées, je dirais. Donc voilà, ça permet d'assurer et d'asseoir aussi le projet, puisque le financement est octroyé via un comité d'agrément, donc composé de ces fameux bénévoles, donc chefs d'entreprise, experts comptables, banquiers, donc qui vient mettre un peu une forme de validation sur le projet. Et derrière, ça vient enclencher, ça facilite le développement de l'activité de cet entrepreneur aussi, au-delà du financement, qui vient évidemment faciliter ça. Et puis derrière, en fait, le réseau Initiative, au travers du financement de cette validation-là, eh bien, il y a tout le côté accompagnement, bien évidemment. Donc les entrepreneurs sont suivis tout au long des premières années, c'est ça le plus important. Et donc voilà, il y a ce réseau, d'où l'idée de réseau Initiative, avec les bénévoles, les salariés de l'association qui viennent accompagner tous ces entrepreneurs-là.
Et il y a des dispositifs spécifiques qui cadrent cette activité ?
Oui, on a d'autres dispositifs qui viennent compléter en fait cette forme d'accompagnement et travailler en transversalité aussi, hein, avec l'accompagnement des collègues. Donc on a les dispositifs, on a Incube, qui est un dispositif qui est assez récent au sein du réseau Initiative, à la base, l'idée, c'est de pouvoir accompagner notamment les jeunes créateurs, donc le public plutôt jeune, ou les publics en inclusion, donc les publics au RSA, en tout cas éloignés, je dirais, de cet accompagnement-là classique. À l'époque, il y avait une prime aussi pour les jeunes notamment. Donc il y a ce dispositif Incube qui est composé d'ateliers de coaching et de rendez-vous individuels. On retrouve également le dispositif CityLab, qui a un peu cette vocation là aussi, mais en quartier politique de la ville, donc quartier prioritaire de la ville. On en a plusieurs sur le territoire des Alpes d'Haute-Provence, donc sur Manosque et sur Digne. Donc là, on a un chargé de projet qui est là-dessus. Sur Incube, on a une chargée sur ça, en tout cas sur le secteur de Digne Gap, et puis on est en cours de recrutement sur Manosque. On a également le dispositif Mon Projet de Boutique, qui est un dispositif qui vise à accompagner les commerçants en centre-ville, et je dirais à rouvrir aussi, avoir ce côté développement territorial, à rouvrir des boutiques fermées dans les petits villages et les villes du département, tout simplement. Et donc il y a un accompagnement particulier, il y a une discussion avec avec le propriétaire du local. Il y a un bail aussi qui est spécifique hein, dans ce cadre-là. Puis un accompagnement renforcé au démarrage. On a le dispositif également Et pourquoi pas moi. Donc ça, c'est un petit nouveau aussi, comme Incube, qui a été expérimental sur l'année 2022. Donc qui fait sa deuxième année là, où on a plusieurs collègues qui travaillent sur l'insertion professionnelle via du coaching, donc qui est assez nouveau. Et c'est pas notamment, c'est exclusivement le public au RSA. Et donc l'idée, c'est de, pour les personnes volontaires de ces publics au RSA, de pouvoir être accompagnées dans leur projet professionnel et d'être un peu boostées en fait sur leur activité, comme on peut l'entendre aussi quand on débarque, je dirais, un peu au RSA. Il y a des parcours de vie hein, et c'est pas toujours et c'est souvent pas un choix en fait, on va dire ça comme ça. Et donc c'est important aussi d'aller les chercher et de travailler avec eux sur ce projet-là. En tout cas, ils sont toujours volontaires de toute façon. Et puis, bien évidemment, il y a le dispositif, et je termine par celui-là, le dispositif Fabrique à Entreprendre, dont on a déjà évoqué le sujet, qui vise plusieurs choses. On en a déjà un peu parlé, mais qui vise à développer des lieux ressources, donc les tiers-lieux sur les territoires, celui de Digne-les-Bains, Digne-Apolis la Fabrique, celui de Fort-Calquier qui se développe, et puis qui vise également à proposer, je dirais, une offre de services assez complète avec une vingtaine de partenaires, une offre de service pour accompagner les entrepreneurs du territoire, donc du début jusqu'à au développement aussi de leur activité. Donc quand je parle d'offre de service, grosso modo, c'est des parcours d'accompagnement sur leur business plan, sur l'étude de marché, sur la communication, etc. Donc on propose, c'est assez énorme en termes d'ateliers collectifs et de parcours qui sont proposés sur l'ensemble de notre asso. On accompagne plus de 1000, il y a plus de 1000 participations sur une année. On en est quasiment à 1200 participations sur nos ateliers collectifs qui sont totalement gratuits hein, pour ces personnes-là. Donc c'est une chance, hein, c'est une vraie chance. C'est assez énorme en tout cas de voilà ce qu'on peut retrouver sur nos départements. Hein, c'est lié avec des partenaires qui sont beaucoup mobilisés et qui souhaitent se mobiliser. Et c'est lié à l'animation au sens large de la fabrique et de la coordination de ces actions-là qui répondent à de réels besoins. Puis après, on monte des actions un peu spécifiques comme la communauté entre elles qu'on a démarré cette année de manière un peu expérimentale et qui cartonne hein, tout simplement. Donc on avait un objectif de 20 femmes entrepreneurs à accompagner. On en est aujourd'hui à quasiment 70 sur cette année 2023. Donc c'est juste improbable et monstrueux, mais là on répond à un vrai besoin. D'ailleurs, il y a une deuxième communauté qui va se développer sur Fort-Calquier Manosque. Donc voilà aussi, c'est l'intérêt de l'économie sociale et solidaire, c'est d'avoir cette capacité associative à monter assez rapidement finalement des actions et à faire converger des partenaires au travers de l'animation de la fabrique. Et je reviens aussi sur cet écosystème, c'est pas que des mots, l'écosystème qu'on vient animer, je dirais, tout au long de l'année. Et donc là, quand on vient créer une action, c'est assez simple finalement de mettre autour de la table quelques partenaires clés et de monter ça. Et ça s'est fait avec Pôle emploi, ça s'est fait avec le CIDFF, avec la BBGE qui est un des partenaires de l'accompagnement, avec l'ADI, les premières aussi au démarrage. Voilà, c'est un peu tout ça que peut proposer aussi Initiative, c'est assez tentaculaire. Ça nous occupe pas mal.
je crois, ouais. En tout cas, voilà, si ça vous donne envie, vous savez que vous pouvez venir faire un tour donc, à l'espace d'Ignapolis, et vous aurez l'occasion d'en savoir plus, et je pense que Pierre-Alexandre vous accueillera avec
de la musique.
Et du thé.
Et du thé.
Et du thé aussi. Et bien justement, musique, on y est déjà. Le temps défile, c'est incroyable. Charlie, tu as préparé une deuxième musique. Mais quelle est cette deuxième musique ?
Cette deuxième musique, c'est on a pris le temps. Donc là, on vient raccrocher à de la musique française. Et finalement, à ces trois chanteurs que j'adore de base, en individuel. Et là, les Loustics, ils ont créé un album à trois, donc qui s'appelle Éphémère, et il est juste incroyable. Donc écoutez-le. Donc c'est le point de départ. Je les adore individuellement. Et puis le titre de la musique, c'est On a pris le temps. Au-delà du titre, Ce que j'aime chez eux, en fait, c'est leur mélancolie. C'est-à-dire qu'ils ont une forme de mélancolie. Moi, j'adore la mélancolie. Ça m'alimente, ça me permet de me poser, ça me permet de réfléchir. Et donc, j'adore les mots aussi qui sont souvent des mots vrais, c'est-à-dire des vérités. On s'identifie dans leur chanson assez facilement. Et pour le coup, je me suis assez bien identifié en 2023 sur On a pris le temps. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Parce que j'ai pris le temps, moi en tout cas sur cette année 2023, de m'écouter. C'est pas évident. Je vous avoue que c'est quelque chose que je faisais pas et que j'avais énormément la tête dans le guidon. Et donc, s'il y a bien quelque chose que j'ai envie de transmettre là, c'est de se dire posons-nous, écoutons ce qu'on a réellement envie de faire, de partager, avec qui on a envie de le partager. Et voilà, donc j'ai pris le temps de partager des moments avec ma famille, j'ai pris le temps de me questionner sur mon parcours professionnel, sur ce que j'ai pu réaliser, et puis sur ma vie personnelle évidemment. Donc prenez tous le temps de tout ça, prenez du temps pour vous.
C'est ça, merci, merci beaucoup. Prenons le temps.
J'ai pris du temps pour mon métier, j'ai pris du temps pour mes chansons. Ce qui allait pas, j'ai pris du temps pour le changer. J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer. C'est tellement rare quand ça marche. C'est tellement rare que quand ça marche, faudra battre le fer tant qu'il est chaud. Le fer tant qu'il est chaud. Parce que l'enfer, c'est pas d'échouer, c'est de pas tout faire pour essayer. Alors j'ai tout fait, jusqu'à étouffer, tout fait. Ah ouais, j'ai tout fait là. Et j'aimerais souffler, souffler. Je me souviens de ce rendez-vous pris, la promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit, comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part, un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche, une feuille blanche.
Et là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Et là,
et là, et là,
au milieu du monde,
et là, et là,
allongé les secondes,
et là, et là,
on a pris le temps.
J'ai pris rencard chez le docteur, chez le coiffeur, chez le véto. Hier j'ai éteint très tard, aujourd'hui je me suis levé tôt. J'ai pris ma douche, j'ai pris la mouche, j'ai pris la route, mes affaires. J'ai pris le train, le taxi, j'ai trop pris, j'ai pris cher. J'ai pris mon fils par la main pour sa fêter son tournoi. J'ai pris le courage à deux mains, le mal de tête c'est pour moi. J'ai pris mes doutes enfouis sous les t-shirts dans ma valise. J'ai pris le tourbus dans une ambiance que souvent j'idéalise. J'ai pris du retard dans ma journée, dans mon planning, dans mon sommeil. J'ai pris de l'avance sur la fatigue, mais pas vraiment sur le réveil. J'ai pris une allure, une cadence, un rythme entêtant, mais c'est vrai. J'ai pas pris le temps depuis longtemps.
Je me souviens de ce rendez-vous pris, la promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit, comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche, une feuille blanche.
Et là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Et là,
et là, et là,
au milieu du monde,
et là, et là,
allongé les secondes,
et là, et là, et là,
on a pris le temps. Et là,
et là, et là,
au milieu du monde,
et là, et là,
pour que la vie réponde,
et là, et là, et là,
on a pris le temps. Et là,
et là, et là,
au milieu du monde,
et là,
allonger les secondes, on a pris le temps.
Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye. Voilà, ils ont pris le temps et on a pris le temps d'écouter cette musique. Merci beaucoup, Charlie. Bon, on arrive à mon moment préféré. Qui es-tu, Charlie Divry? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu te retrouves rapidement, parce qu'effectivement, ça pourrait être long. Hein. Comment tu te retrouves aujourd'hui chargé de projet à la Fabrique à Entreprendre?
Alors oui, ça peut être long, on peut en parler peut-être longtemps, mais bon, c'est pas le plus intéressant, on va essayer de cibler, mais bon, j'ai que 33 ans, et ça fait que 8 ans que je travaille finalement, donc c'est peut-être pas foufou. Moi j'ai un parcours donc je suis originaire du Maine-et-Loire, tiens, je fais le clin d'œil en tout cas pour ma région d'origine, donc du côté d'Angers, ville où il fait bon vivre, où il y a la douceur en juin et aussi un petit peu de vin qui est plutôt sympa. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus puisque je sais pas si on a le droit d'évoquer un certain nombre de choses sur cette radio. En tout cas, il fait bon vivre au-delà de prendre le temps. Donc je suis originaire de Angers, j'ai toujours vécu en milieu rural et ce qui m'a rapidement animé, c'est de j'étais président d'association à plusieurs reprises. J'étais toujours dans l'action, de monter des actions, de monter des projets. Et donc finalement, mon parcours professionnel s'est orienté vers ça assez facilement. Et donc j'ai toujours eu un parcours d'études en lien avec le développement local, le développement territorial. Et avec une spécificité, et ça je l'ai toujours gardé au travers de mes études, donc je suis passé par une licence professionnelle, par un BTS aussi, et puis un master 1, master 2, dans le domaine du développement territorial, en territoire ruraux, voilà, avec les spécificités rurales, et ça pour moi c'est important, c'est-à-dire que j'ai pas travaillé sur les problématiques, de la ville ou de la politique de la ville, des métropoles. C'est pas des choses qui me donnaient du sens hein, dans mon travail. Donc j'ai travaillé surtout sur ça. Alors, juste pour raccrocher aussi sur le territoire, quand j'ai démarré mes études, j'ai trouvé une licence professionnelle qui était sur le développement durable des territoires ruraux. Ça, c'est l'intitulé exact, il n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était à l'IUT de Digne-les-Bains. Et donc, j'ai connu pour la première fois les Alpes-de-Haute-Provence et Digne-les-Bains. Donc, c'était en 2013 de mémoire. Et j'ai fait ma licence ici, à Digne. C'est là où il y a eu un joli déclic aussi de ce territoire assez incroyable, hein, en tout cas pour moi. C'est là où j'ai rencontré mon meilleur pote, qui est aujourd'hui le parrain de ma fille, donc c'est quand même pas rien. Et puis, il fallait continuer, donc je suis retourné en Anjou pour mon Master 1. Et puis j'ai fait mon Master 2 à Grenoble pour diverses raisons, notamment parce qu'il y avait des enseignants-chercheurs que j'adorais hein, sur ces territoires-là. Et puis, à la sortie de mes études, comme beaucoup aussi de jeunes qui sortent des études, faut trouver un travail, quoi. Et moi, je ne m'étais pas donné de limite pour trouver mon premier job. Et donc, j'ai postulé à des offres dans le coin. Et voilà, ça fait 8 ans, on m'a donné ma chance de nouveau sur le territoire de Digne. Et donc, c'est mon premier job. J'ai démarré dans une collectivité territoriale il y a 8 ans, pendant 4 ans sur un programme qui s'appelle le programme Leader de fonds européens, qu'on a monté avec ma collègue à l'époque et la structure. Et donc, je suis resté sur ce territoire où j'ai construit un certain nombre de choses professionnelles. Et voilà, ça fait 4 ans que je développe ce projet de Fabrique à Entreprendre, ce tiers-lieu ressource sur Digne, voilà, pour parler un peu de mon parcours et pourquoi je suis aujourd'hui chef de projet Fabrique à Entreprendre.
Tous les gens m'amènent à Digne-les-Bains.
Visiblement.
Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un portrait chinois?
Je l'ai un peu... alors, j'avais le nom, hein, mais je l'ai un peu appris en discutant avec toi et en préparant cette émission.
Ok, donc...
Mais raconte-nous.
Je rappelle le principe, c'est si vous étiez quelque chose, je serais cette chose pour ci ou pour ça. Donc j'ai des super questions vraiment limpides, intéressantes, qui vont permettre de dresser le caractère de Charlie qui était avec nous aujourd'hui. Donc première question, Charlie, si tu étais un personnage de dessin animé,
ouais,
qui serais-tu?
Je serais, c'est le premier qui me vient, c'est Winnie l'ourson. bon, peut-être parce que je suis un petit peu poilu, mais c'est pas ça l'idée. Je suis très gourmand en fait, et c'est pas, alors le pot de miel, j'adore le miel, hein, c'est pas le souci. Mais si vous venez à la fabrique à Digne, d'ailleurs, je vous invite à passer pour venir nous rencontrer et échanger avec nous, boire un café bien évidemment, ou un thé, très bon thé de Pierre-Alexandre. En fait, il y a toujours des bonbons, tu le sais, Pascal.
C'est vrai.
Et malheureusement, c'est que dès que je mets la main dans ce pot de bonbons, forcément, j'en mange quelques-uns. Et donc voilà, je suis assez gourmand en tout cas, et notamment sur les bonbons. Et pour pour faire un petit côté aussi historique, c'est un peu la faute de mon père, là, parce que depuis que je suis petit, lui, il mange plein de bonbons, il y en a toujours partout. Et donc, il m'a donné ça. Et bon, je vais essayer de le transmettre à ma fille, mais pas trop quand même.
Ok, très bien. Alors, Winnie, si tu étais un plat populaire.
Ouais, alors c'est un peu en lien aussi, parce que pour moi, c'est la tartiflette qui me vient en premier. C'est la tartiflette parce que c'est généreux, parce que c'est gourmand, parce que ça se partage, quoi. Et c'est assez simple à faire et tout le monde aime. On peut aussi avoir une version un peu végé, voire même végane aujourd'hui, donc on peut la transformer. Même si on parle de plat, je dirais, populaire, on reste sur un plat, je dirais, classique. Mais voilà, il y a le côté généreux, gourmand et à partager, ça me va bien.
Super. C'est d'époque en plus.
C'est grave d'époque.
Si tu étais un objet dans ta salle de bain, tu serais quoi?
Ouais, alors là c'est un peu particulier. J'arrivais pas à trouver, puis j'ai dit mais en fait il y a ça que je trimballe tout le temps partout depuis quelques années là. C'est un, alors ça s'appelle un, alors je sais pas si pour la prononciation, je sais pas si c'est ça, mais c'est un jalanetti. En fait c'est un genre de d'arrosoir inversé qui permet de nettoyer son nez. Et pour moi c'est au-delà de ma douche quotidienne, c'est mon nettoyage du quotidien. En fait c'est un objet indien qu'utilisent les Indiens tous les jours. Pour nettoyer leur nez. Et moi j'utilise parce que allergie, parce que tout un tas de choses liées à ma santé. Et en fait c'est quelque chose qui est bizarre à trimballer, et pour moi c'était important de communiquer dessus.
Ok, donc on se souviendra que Charlie a le nez propre.
Voilà, exactement. Et en cas de rhume, bah, ça aide à passer beaucoup plus vite ce rhume là aussi. Voilà,
on essaiera.
Astuce santé.
On essaiera. Si tu étais une épice, Charlie, quelle épice serais-tu ?
Alors j'en ai tout le temps, et celle que j'utilise le plus, c'est le curry. Voilà, je le mélange à plein de trucs, je sais pas pourquoi, mais ça me va bien le curry.
Parce que c'est bon.
Ouais, parce que c'est bon, parce que c'est doux. Je le mets dans la crème fraîche, avec des pâtes. Enfin bon, je le mélange à plein de plats, donc c'est le curry, ça me va bien.
Ok, super, merveilleux. Et si tu étais une forme géométrique ?
Alors la forme géométrique, c'est pour moi le cercle. Parce que c'est arrondi, dans mon job je fais que d'arrondir les angles, souvent, surtout quand on monte des projets, il y a beaucoup de susceptibilité, il y a parfois de mauvaise foi, parce que je travaille qu'avec de l'humain, mais c'est surtout que j'ai horreur du conflit, et donc je fais que d'arrondir les angles pour éviter le conflit et de faire en sorte qu'on n'aille pas jusqu'à une étape de conflit. Donc moi tout ce qui est rond, ça me va bien.
Ok, d'accord. Dernière question. Si tu étais un parc d'attractions, Charlie.
Alors j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, c'est le Futuroscope, parce qu'il est assez impressionnant dans ce qu'il propose, en termes d'activité, c'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde, et ça j'adore, l'idée c'est de pouvoir amener quasiment tout le monde de la famille, des amis. On a beaucoup aussi de sensations fortes, on a la technologie, on a aussi un peu d'éducation dans tout ça. Il y a notamment... Je m'en souviendrai tout le temps. Là, il y a notamment un film avec Thomas Pesquet, qui est dans un cinéma juste géant. Et tu t'y crois, les images sont magnifiques. Et il raconte l'histoire depuis l'espace d'une de ses sorties, hein, qu'on peut imaginer et connaître. Et voilà. Et en fait, c'est tout ça à la fois. C'est de la science, c'est des robots qui dansent. Donc, c'est un mélange de plein de choses. Et j'aime bien. Moi, c'est assez éclectique. Et je trouve que ça me ressemble plutôt bien. Aussi, puis ça se partage avec plein de gens aussi, donc comme j'aime bien partager, ça continue. Ouais.
Et puis c'est pas très loin d'Angers.
Et c'est pas très loin de d'Angers, effectivement.
Et oui, hein, je vous le rappelle, c'est à Poitiers. Donc oui. On se souviendra que si vous voulez partager une tartiflette avec Willy l'ourson et manger quelques bonbons et ne pas oublier de vous laver le nez, donc, rendez-vous donc à la Fabrique à Entreprendre. En tout cas, moi, je vous invite à venir pousser la porte de ce lieu qui est vraiment intéressant. Si vous avez des enfants et une boîte de Lego, c'est très pratique.
Et oui, toujours la construction.
Et on construit, c'est ludique. Il y a vraiment beaucoup d'événements au-delà de la... Je me permets, je fais la petite pub.
Carrément.
En tant qu'usager, il y a beaucoup de choses qui sont proposées au-delà des externalités, comme on le dit souvent dans les tiers-lieux qui sont proposés aux coworkers ou aux associations, voire aux futurs entrepreneurs et entrepreneuses. Il y a des événements. Il y avait un événement la semaine dernière sur les violences sexuelles et sexistes au niveau du travail. Voilà, fort intéressant, en présence du préfet. Voilà, c'est un lieu qui est ouvert sur la ville, sur son territoire. Et, et qui permet de donner un visage très concret de l'ESS à travers l'entrée de l'entrepreneuriat. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission. Mmh. C'est le moment que vous attendez tous. Je sais que vous attendez ce moment. C'est le moment de l'agenda. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre région autour de l'ESS? Moi, je vous invite à aller sur le site de la CRESPACA, donc je rappelle, la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui propose tous les premiers mercredis du mois les rencontres Affaires Impact, qui sont donc des réunions en visio en direction des entrepreneurs à impact, donc entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, des associations, des fondations, des coopératives, des mutuelles, des entreprises commerciales d'utilité sociale. Et l'idée, c'est de permettre aux personnes qui participent de présenter leurs solutions pour éventuellement trouver des petits débouchés commerciaux. Donc c'est hyper simple, hein. Vous allez sur le site de la CRESPACA, il y a un petit lien sur un Framaform, vous vous inscrivez et puis vous participez à cet événement. Donc voilà, il y a des solutions qui sont des fois toutes simples, un petit peu en prolongement de ce que Charlie nous présentait à la Fabrique Entreprendre et puis plus largement sur le réseau Initiative. Bon, voilà, sur nos territoires, il y a aussi ce que propose la CRES. Donc, je vous invite tous à aller faire un tour sur le site de la CRES. Je le rappelle, www.crespaca.org. Voilà, on va arriver à la fin. On va finir sur une musique, ta dernière musique que tu vas nous présenter. Avant d'aller sur la présentation de la prochaine émission, est-ce que tu as quelque chose que tu voulais nous dire pour la fin?
Pour faire un petit peu de promo, déjà merci à toi en tout cas pour l'invitation, Pascal.
Avec
merci
plaisir.
À Odile aussi pour la technique et ce que vous faites de manière un peu globale. En tout cas, c'est toujours un job collectif tout ça là. Donc si on va tous dans le même sens, a priori on est un peu plus fort là. Puis en termes de promo, allez sur le site de la Fabrique à Entreprendre, lafabriqueaentreprendre-alpes-provence.org, ou sur le réseau, sur le site du réseau Initiative Alpes Provence, pour en savoir un peu plus. Et puis moi je serais ravi de vous rencontrer notamment sur Digne lors de nos événements. Alors là, la fin de l'année approche, donc on a un peu moins d'actualité, mais ça va repartir très rapidement en janvier aussi. Et je remercie de nouveau et encore une fois de plus tous les partenaires qui sont autour de la fabrique, parce que c'est avec eux qu'on arrive à faire tout un tas de choses. Et voilà, ils sont encore là, ils sont de plus en plus aussi, donc c'est plutôt cool. Voilà.
On va pas les citer parce que tu n'arrives pas d'en oublier.
Non, une vingtaine de partenaires, là, ce serait trop compliqué.
Ouais. Beaucoup. Ouais. En tout cas, vous vous reconnaîtrez. Hein, voilà. Écoute, merci, vraiment merci beaucoup pour ta participation active et ton entrain et ton enthousiasme autour de ce micro. Prochaine émission, tout début janvier, donc ce sera bien le jeudi 4 janvier à 9h. Donc voilà, vous serez tout frais de cette nouvelle année avec vos nouvelles dispositions. Comment on dit déjà les nouvelles,
Les bonnes résolutions.
Les bonnes résolutions, voilà, avec vos bonnes résolutions. Donc prochaine bonne résolution, ne pas louper la fesse. Hein,
en tout cas, c'est la première
voilà, bonne résolution. Voilà, première résolution, on va écouter la fesse. Alors pas le comédien, hein, l'émission évidemment. on aura le plaisir d'accueillir Laurane Bisbeau, qui est chargée de mission insertion, emploi, égalité et parentalité au CIDFF. Donc CIDFF, Centre
d'information
du droit des femmes et des familles. Mmh. C'est ça. Donc voilà, on aura le plaisir d'aborder les questions autour d'égalité homme-femme, du genre, mais plus spécifiquement sur l'entrée travail, entrepreneuriat, insertion. Ouais. Mmh. Donc voilà, on est ravis d'accueillir Laurane pour cette émission, qui est d'ores et déjà en train de la préparer et qui se pose, qui fait déjà le choix de quoi je vais pouvoir aborder. Ça, elle va être extrêmement motivée, c'est super, on est content de l'accueillir. Alors quelle est la dernière musique que tu veux nous présenter pour la fin de cette émission?
Oui, dernière musique, alors c'est I Made It, donc j'espère que je prononce bien avec mon accent français en anglais, mais en fait cette chanson elle est simple, elle est tout en... Pour moi c'est une éloge un peu de la persévérance, c'est-à-dire que la traduction c'est je l'ai fait, et on sent bien derrière cette musique qu'elle a cette fierté d'avoir réalisé tout un tas de choses. Et moi, c'est un peu là où j'en suis aussi dans ma vie aujourd'hui. Et même si c'est toujours un travail collectif, c'est important aussi de pouvoir, pour sa confiance et la suite, se dire « Waouh, ça y est, on en est là, on a fait ça. » et ça c'est validé. Et voilà, donc pour moi c'est vraiment ce côté persévérance, c'est-à-dire qu'on a traversé des choses compliquées, difficiles, il y a eu des allers-retours, mais on l'a fait, on en est là aujourd'hui, on a réussi et c'est cool. Donc voilà, c'est écoutons cet éloge à la persévérance et au fait de croire en quelque chose et de pas perdre ça de vue.
Super, et ben on va écouter ça avec attention. Merci beaucoup Odile pour cette émission.
Merci.
Merci.
Je vous dis à l'année prochaine. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez des repas, profitez de vos familles, de vos amis. Faites la fête. Pensez à l'ESS un petit peu si vous voulez, mais surtout profitez-en. Et je vous dis donc à l'année prochaine.
Merci à tous et au revoir.
Au revoir,
merci. Au revoir.
Young, I tried to build a paper plane, but my head told me no. My parents sat me down and they tried to explain that I had some time to grow. But I stayed up all night until I got a ride, and in the morning I screamed, hey, look, I made it. When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no. But I knew I was special, and when I didn't believe, I'd remember the moments when my family's waiting for me. And if I had a dollar from the ones that didn't believe, I could say I knew I was special.